Merci d'écouter RFI, il est 23h, en temps universel, 1h à Gaza et Tel Aviv.
Mathis Limano.
Premier jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Les armes se sont tues ce matin avec plusieurs heures de retard. Les trois premières otages libérées sont rentrées en Israël. Elles sont en bonne santé, indique l'hôpital de Tel Aviv où elles ont été admises. De son côté, le Hamas attend la libération d'une première vague de détenus palestiniens. À Gaza, des camions d'aide humanitaire chargés de vivres, médicaments et carburants ont pu rentrer dans l'enclave. Une victoire diplomatique que revendique Donald Trump, le 47e président des États-Unis. États-Unis va prêter serment ce lundi. La cérémonie prévue à 17h temps universel s'annonce très suivie. On se penche dans ce journal sur une conséquence de son retour au pouvoir. Le cours des crypto-monnaies s'envole. Les trois otages israéliennes libérés par le Hamas sont dans un état stable. Déclaration de l'hôpital de Tel Aviv où elles se trouvent actuellement. Elles doivent maintenant passer une batterie d'examens médicaux après un an et trois mois passés en captivité dans la bande de Gaza. La trêve dans le territoire palestinien en vigueur depuis dimanche matin avec près de trois heures de retard sur l'horaire initialement prévu. De son côté, le Hamas a déclaré attendre sous peu l'arrivée des 90 prisonniers palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l'accord. L'aide humanitaire est également entrée à Gaza quelques minutes après le début du cessez-le-feu. Les premiers camions ont pénétré l'enclave. Alice Moreno, vous êtes à Rafah pour RFI, point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte où les camions chargés d'aide affluent.
C'est un balai incessant de camions qui franchit le poste frontière de Rafah. Chargé de nourriture, de gaz, d'essence, les conducteurs des véhicules klaxonnent volontiers au passage de la frontière pour célébrer la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous allons enfin pouvoir apporter l'aide à nos frères palestiniens, me confiait un de ces conducteurs. Ils vont pouvoir vivre, revivre un peu. Ces scènes sont immortalisées par des dizaines de caméras. Les autorités égyptiennes ont organisé un voyage presse au poste frontière de Rafah, normalement interdit aux journalistes. Et l'État égyptien compte bien insister sur son rôle dans l'acheminement de l'aide à Gaza. Plus de 200 camions ont franchi aujourd'hui Rafah en direction de Kerem Abou Salem et Netzarim sur le territoire israélien où ils seront soumis à un contrôle des autorités israéliennes avant d'entrer dans Gaza. Alice Moreno à Rafah pour RFI.
260 camions d'aide ont pu s'engouffrer dans la bande de Gaza. 16 autres sont eux chargés de carburant. Des centaines d'autres véhicules attendent de passer la frontière depuis l'Égypte pour desservir l'enclave. Les Gazaouis, privés de tout depuis 15 mois de guerre, attendent urgemment cette aide. À terme, ce sont 600 camions par jour qui devraient porter secours aux réfugiés. Un soulagement, décrit la présidente de l'ONG Médecins Sans Frontières, Isabelle Defourny, qui reste toutefois prudente quant aux semaines à venir.
On sait que c'est un soulagement pour la population de Gaza, un soulagement pour les familles des otages, pour les familles des Palestiniens. Bon, c'est une très bonne chose que les bombardements soient arrêtés. Ça, c'est un soulagement énorme pour la population, l'arrêt des bombardements. Maintenant, la mise en place de l'aide, être capable de distribuer la nourriture nécessaire, de protéger du froid quasiment 2 millions de personnes déplacées, ça, on n'y est pas encore. On a besoin que ce cessez-le-feu tienne sur la durée. On a besoin que les mécanismes de vérification des camions soient allégés. Donc, on reste prudent, mais oui, on est content que les bombardements, en tout cas, soient arrêtés, par exemple.
Isabelle Defourny, présidente de MSF, avec Théo Renaudon. Et parmi les réactions internationales depuis l'entrée en vigueur de cette trêve à Gaza, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a appelé ce dimanche à s'engager en faveur d'un État palestinien coexistant en paix avec l'État d'Israël. Le premier ministre britannique Keir Starmer salue, lui, une nouvelle fantastique après des mois de supplice. Le président américain sortant Joe Biden s'est félicité que le Proche-Orient soit une région profondément transformée grâce à l'accord de trêve et la libération des otages. Le pape François lui a appelé au respect immédiat du cessez-le-feu. Au moins 80 morts en Colombie en quelques jours à la suite d'une attaque menée par la guérilla de l'ELN contre des dissidents des FARC et la population civile. Depuis jeudi, les deux organisations s'affrontent pour le contrôle de la région de Catatumbo. Cette zone du nord de la Colombie est stratégique pour la production de cocaïne. Selon l'armée colombienne, plus de 5000 soldats ont été déployés sur place pour renforcer la sécurité. Plusieurs centaines de manifestants ce dimanche en Suisse. Ils ont tenté de bloquer la route d'accès au forum de Davos avant d'être délogés par la police. La 55e édition du Forum économique mondial débute ce lundi et pour une semaine, il rassemble comme chaque année des centaines de participants mêlant dirigeants politiques et patrons d'entreprises. Le thème cette année, la collaboration à l'ère intelligente, mais le principal sujet de conversation, ça sera surtout le retour de Donald Trump aux affaires, le président américain qui doit d'ailleurs participer jeudi au forum par visioconférence. Mais avant cela, Donald Trump doit prêter serment, ça se passe ce lundi, et en amont de la cérémonie d'investiture, cette conséquence du retour aux affaires de Donald Trump, les cours des crypto-monnaies s'affolent alors que le Trésor américain annonce avoir atteint le plafond de la dette et devoir mettre en place des mesures extraordinaires. L'année 2024 était un bon cru pour les crypto-monnaies aux États-Unis, contexte légal et monétaire favorable, mais surtout un signal politique plus que positif, l'élection de Donald Trump, ouvertement pro-crypto-monnaie. Et le résultat s'est tout de suite vu sur les marchés, Charlotte Cosset.
Dans les 10 jours qui ont suivi son élection, le cours du Bitcoin passe d'environ 70 000 à 90 000 euros. En cause, l'arrivée à la tête de la Maison-Blanche d'un acteur favorable aux crypto-monnaies, il promet un décret les élevant au rang de priorité nationale. Quentin Demey, économiste et co-auteur de 100 mots pour comprendre les crypto-monnaies.
Il a aussi dit qu'il ferait une réserve stratégique en Bitcoin. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'assez fort comme déclaration, puisque se dire que le premier pays en termes de PIB que sont les États-Unis qui ferait une réserve stratégique en Bitcoin, ça changerait pas mal de choses sur le marché.
Vendredi, Donald Trump crée même sa propre crypto-monnaie à son effigie.
L'image qui est faite de cette crypto-monnaie, c'est lui avec le point levé qui dit « fight, fight, fight », donc en lien avec sa tentative d'assassinat qui avait eu lieu en juillet dernier. Et en fait, en achetant ce type de crypto-monnaie, donc ce Trump même, on encourage la culture de la réussite, de l'optimisme, etc. quoi. C'est ce qui est vendu. Un cueil très impressionnant. Aujourd'hui, son cours, il est affiché à 21 euros et ça en fait déjà la 32e crypto-monnaie en termes de capitalisation. Il y a 4 milliards d'euros de capitalisation sur la crypto-monnaie.
Une euphorie aux États-Unis. Certains prédisent une explosion de la valeur de ces crypto-monnaies. D'autres, comme Quentin Demey, sont plus mesurés et pensent que l'année sera plutôt à la stabilisation. Face aux multiples annonces, les réalités pourraient rattraper le nouveau président américain.
La prise de pouvoir de Donald Trump qui ne laisse personne indifférent, notamment en Europe, où trois pays regardent particulièrement vers Washington, les pays baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie. Limitrophes de la Russie, ils comptent beaucoup sur les États-Unis pour leur défense. Correspondance à Vilnius de Marielle Vituro.
Mi-novembre, le président lituanien appelait déjà Donald Trump, tout juste réélu. Il a assuré que la Lituanie était prête à travailler avec les États-Unis et qu'elle était l'un des pays qui consacrait le plus pour sa défense. Il vient de s'engager à dépenser 5% du produit intérieur brut dès 2026. Pour ne pas être effrayé par les déclarations catégoriques de Donald Trump, il n'y a qu'une solution, estime la ministre lettonne des Affaires étrangères, Baiba Braje, interviewée à la télévision.
Il faut travailler au lieu de se demander ce qui pourrait arriver. Il faut que nos positions soient claires, que nos engagements soient connus, faire savoir que nous faisons beaucoup.
Dans ces États limitrophes de la Russie, la grande question est l'issue de la guerre en Ukraine. Les Baltes craignent que Moscou sorte vainqueur d'un possible accord passé avec Donald Trump. Invité par le ministère lituanien des Affaires étrangères, Alexandra de Hopscheffer, la présidente du German Marshall Fund, estime qu'un autre scénario est probable.
Donald Trump, une fois arrivé à la Maison-Blanche, pourrait accroître l'aide militaire à l'Ukraine pour faire encore plus pression sur Vladimir Poutine et le forcer à venir à la table des négociations.
Une nouvelle ère s'ouvre et pour s'y préparer, les parlementaires baltes ont multiplié les visites outre-Atlantique ces derniers mois. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Donald Trump a annoncé qu'il signerait un nombre record de décrets présidentiels immédiatement après sa prestation de serment, notamment un décret visant à la déportation massive de migrants, une calamité, estime le pape François, qui dénonce une attaque contre, je cite, de pauvres malheureux qui n'ont rien. La cérémonie d'investiture de Donald Trump débute ce lundi à 17h, temps universel, événement à suivre sur RFI. Minuit 9 à Paris, la gauche française un peu peu plus divisé après le refus du Parti socialiste de voter la motion de censure jeudi. La formation n'est plus considérée comme un partenaire du NFP, déclaration ce dimanche de Jean-Luc Mélenchon sur RTL Public Sénat. Le leader de la France insoumise dénonce une combine pourrie entre les socialistes et le gouvernement de François Bayrou. En Ligue 1 de foot, Marseille accroché par Strasbourg à domicile, score final 1 partout. Même score entre Reims et Le Havre et entre Saint-Etienne et Nantes plus tôt ce dimanche. Angers s'est imposé 2-0 contre Auxerre. Et en Espagne, le Real reprend la tête du championnat après une victoire tonitruante sur Las Palmas. Emmené par un Kylian Mbappé doublement buteur, Madrid l'a emporté 4-1.